Carlos Alcaraz va-t-il réussir à terminer l'année à la première place mondiale? Là, il a 500 points d'écart à la race sur Novak Djokovic. Ça s'annonce très compliqué, lui qui a eu une nouvelle désillusion contre Grigor Dimitrov au Masters 1000 de Shanghai. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu du début du Masters 1000 de Shanghai, sachant que les quarts de finale arrivent ce jeudi. Et ce soir, je suis avec Josh et Greg. Comment ça va?
Ça va très très bien.
Eh ben, bonsoir Conz, bonsoir Josh, bonsoir à tous les talkers qui nous écoutent, ça va super.
Ça fait plaisir de se retrouver, notre premier live je crois depuis la fin de l'US Open avec cette tournée asiatique. On pourra reparler un petit peu de la hype qu'il y a derrière, si c'est quelque chose qui vous a plu, pas plu, et avec vous aussi, si c'est quelque chose que vous suivez attentivement ou pas. Et nous on se retrouve après le jingle. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, ça fait plaisir de retrouver les fidèles, Livred, Vincent. On va commencer en douceur avec le traditionnel Icebreaker. Donc Livred, pas de soucis, t'es au bon endroit, on va te faire un petit récap de tout ça. Mais d'abord, le temps que tout le monde arrive, un petit échauffement pour savoir ce qui vous a marqué, plu, déplu sur ce début de Masters 1000 à Shanghai qui maintenant est sur une période rallongée. Greg, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu retiens pour le moment?
Écoute, comme on est contre ce principe de Masters 1000 sur 12 jours, on va prendre en compte que ce qui s'est passé à partir de lundi, comme si les Masters 1000 duraient une semaine comme à la belle époque. Je vais revenir d'abord sur le tournoi de Diego Schwartzmann, qui pour la première fois depuis Anvers 2021 sur un tournoi sur dur gagne 3 matchs consécutifs, enfin 2 cette semaine si on compte à partir de lundi. Il bat notamment Alex de Minaur au deuxième tour, il bat Leishka et Tyler Fritz donc du coup hier dans des matchs en 3-7 vraiment au couteau. Donc ça fait super plaisir en tout cas pour Diego qui a vécu des moments assez difficiles personnellement ces derniers mois et qui là voilà commence à retrouver la solidité qu'on lui connaît dans l'échange et très percutant en revers. Il monte aussi pas mal à la volée, hein, c'est une quinzaine voire une vingtaine de montées à la volée par match. Vraiment une super performance pour l'Argentin qui est redescendu au-delà de la 120e place mondiale, hein, qui est quand même assez dingue. On se souvient de ses super combats contre Rafa ou même Dominic Thiem du côté de Roland-Garros. À l'inverse, il y a deux joueurs moi qui m'ont énormément déçu, c'est Tyler Fritz du coup qui est en course pour le Masters et Casper Ruud aussi. Mine de rien, on parlait beaucoup d'un joueur comme André Rublev qui avait un plan A. Casper Ruud, c'est vrai que j'ai du mal à lire un plan B viable, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est un joueur qui tourne beaucoup autour de son coup droit, on le sait, qui trouve beaucoup de longueur et qui arrive à être performant grâce à ça, qui sert aussi pas si mal, mais dès que ça se passe peut-être un peu moins bien, dès qu'il a un adversaire en face de lui comme Marojan qui commence à énormément varier, il est beaucoup plus en difficulté. Il a aucune demi-finale sur dur depuis le début de la saison, bien loin le temps donc où il atteignait la finale de l'US. Il va peut-être bientôt sortir du top 10 aussi, ce serait pas forcément immérité. Et l'Américain dont on a parlé juste avant aussi, qui manque de caractère, je trouve, et c'est, enfin, ça date pas d'aujourd'hui notamment, on l'avait vu contre Novak Djokovic, c'était assez abyssal que ce soit à Cincinnati ou à l'US Open. Et le troisième fait marquant pour moi, c'est Craig Taylor qui a encore fait des siennes en annonçant que Rafa reviendrait à la compétition, comme il l'avait fait pour Serena Williams en 2017, comme il l'avait fait pour Roger Federer en 2020, sans forcément avoir beaucoup de sources visiblement, parce que Rafa et son équipe ont démenti pas qu'ils ne participeraient pas à l'Open d'Australie, mais voilà, qu'ils n'avaient pas encore de date de retour eux-mêmes, même si voilà, ils étaient vraiment reconnaissants de l'intérêt porté par la direction du tournoi, qui a aussi annoncé le retour chez les dames de Naomi Osaka, d'Angélique Kerber et de Caroline Wozniacki pour l'édition 2024.
Et toi, Josh, qu'est-ce que tu retiens en complément de ces informations de Greg?
En complément, un très bon tournoi de ce qui pourra être potentiellement notre futur numéro 1 français pour de belles années, Arthur Fils, qui nous bat Kotov et Davidovich Fokina, contre qui il avait perdu plusieurs reprises, notamment en Grand Chelem. Donc très bon tournoi, il s'incline seulement contre Tommy Paul dans un match très serré, où il aurait pu même passer, enfin on aurait pu le voir passer, enfin, quand on regardait le match, ça jouait vraiment et c'était vraiment indécis. Je pense que vraiment, s'il continue à avoir cette consistance, s'il continue à progresser comme il le fait, il va passer les paliers les uns après les autres. Et voilà, ça passera par des victoires références. Pour l'instant, voilà, il a cette victoire contre Casper Ruud. Voilà, je pense qu'il pètera bientôt une belle victoire en Grand Chelem, ce qui lui permettra, voilà, de grimper encore au classement et de poursuivre sa très belle carrière. Point négatif pour Holger Rune. Voilà, Holger Rune qui continue de décevoir ses 9 défaites sur ses 10 derniers matchs. Dernière victoire, enfin, ça a commencé à Wimbledon quand il s'est fait sortir contre Carlos Alcaraz. Et depuis, voilà, il n'en met plus une dedans, le Danois. Là, il nous déçoit encore. Il fait des catastrophes contre Nakashima, qui est pourtant largement à sa portée. C'est vraiment Nakashima, c'est un joueur qui vous permet de jouer, de construire comme sait si bien le faire Holger Rune. Et là, je pense que voilà, il va falloir couper. Enfin, je ne sais pas quel est son programme de fin d'année. Forcément, je pense qu'il va venir à Paris pour défendre ses points. Mais ça, je pense qu'on est au bout d'un cycle pour lui et qui Flore qui coupe et qui se relance vraiment pour 2024. J'avais mis aussi Félix Auger-Aliassime, mais bon, c'est un peu le même cas de figure, mais lui, ça dure depuis un bon moment, donc on va laisser ces deux joueurs se reposer un peu, je l'espère pour eux, et voilà, reprendre sur une bonne dynamique pour l'année prochaine, étant donné que c'est quand même deux très jeunes joueurs qui sont capables de jouer à un niveau extraordinaire, donc à suivre. Et le troisième, c'est notre Hugo Humbert, qui renaît petit à petit et qui fait un très très gros tournoi. Alors, on avait eu des bribes de son bon niveau de jeu à Pékin, où il perd que contre Daniil Medvedev en 3-7. Mais là, voilà, il réitère, il vient battre Van de Zandschulp, Tsitsipas et Gigi Wolf. Donc, il fait des gros matchs. Enfin, Gigi Wolf, là, il lui met une sacrée rouste, et j'adore son style de jeu. Je pense qu'on se souvient de ses matchs en Grand Chelem contre Kyrgios, voilà, où il est tout près de passer ses tours qui auraient pu le faire évoluer à un cap supérieur, mais voilà. Ou même quand il gagne Halle en faisant un tournoi exceptionnel, enfin, on a des très bons souvenirs avec lui, et c'est dommage de ne pas l'avoir vu plus souvent jouer à ce niveau-là, donc pour en profiter, on espère vraiment que ça va continuer comme ça pour lui, et voilà, il a toutes ses chances en quart de finale, même si ça va être compliqué face à un Rublev qui joue très très bien.
Ouais, on le
C'est
rappelle,
clair.
franchement, au milieu de l'année dernière, il était aux alentours de la 150e place mondiale. Il avait presque quémandé pour avoir une wild card à Bercy. Un an et demi après, on est quand même dans
Exact.
d'autres sphères.
D'autres dispositions, ouais, c'est clair. Ah, complètement, Steph, je me suis trompé sur Alcaraz. Je le voyais vraiment sur l'ensemble. On aura l'occasion d'en reparler après sur son match contre Dimitrov. Je suis à 3 sur 8 sur mes pronos des quarts de finale. C'est pas
T'avais dit
brillant.
Humbert en quart, par contre, non?
Ouais, j'avais Humbert, Jarry et Hurkacz en quart. C'est les seuls trois d'ailleurs que c'est
Belle
pas
quand même.
forcément les plus évidents. Et Alcaraz
Ouais.
aurait pu me faire 4 sur 8, mais c'était Tandax.
Bah,
C'était
surtout
Tandax,
Jarry Humbert,
Tandax.
je trouve.
Ouais, c'est clair. Et même Hurkacz, quand on sait qu'il peut décevoir, mais bon, ça fait que un 3 sur 8. Pas évident, pas évident. On aura l'occasion d'en reparler. Et j'aimerais vous lancer avant de parler des matchs, sur cette tournée asiatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez cette hype? Parce que bah, on est passionné de tennis et on suit forcément le tennis, d'autant plus que là, c'est pas mal. C'est au réveil, pendant le petit-déj, pour aller au boulot, on peut suivre un petit peu tout ce qui se passe par rapport au décalage horaire. Mais est-ce que vous arrivez à être accroché par cette période? Parce qu'on est dans un moment un peu de flottement après l'US Open, où là, on sent que la fin de saison arrive. Donc, il y aura un regain au Rolex Paris Masters, puis aux ATP Finals, sachant que les meilleurs vont se disputer le titre. Mais là, est-ce que vous arrivez à accrocher au Masters 1000 de Shanghai? Greg, toi, est-ce que tu es dans le train, la hype de ce Masters 1000 ou pas du tout?
Bah écoute, moi je suis assez partagé. Effectivement, il y a la période 4 pattes entre le dernier grand chelem de l'année et effectivement pour nous Français le Masters 1000 de Paris-Bercy qui est quand même un rendez-vous important. Le Masters, la course au Masters justement sur les derniers ATP 500, le dernier Masters 1000, etc. Donc c'est vrai que ça arrive un peu à une période, on va dire, creuse. Après, en plus, évidemment, ces tournois en milieu de semaine qui n'aident vraiment pas à ce que ce soit lisible. Tu as des finales d'ATP 500 qui se jouent en même temps qu'un début de Masters 1000. Enfin, franchement, c'est très compliqué à lire. Maintenant, il y avait aussi comment dire, la petite intrigue de savoir comment ça allait se passer, parce que mine de rien, on n'était pas revenu sur le continent asiatique et plus particulièrement la Chine depuis 2019, le Covid, tout ça, enfin 4 longues années. Donc voilà, et peut-être cette petite intrigue-là, ouais, comme je viens de le dire. Après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus de matchs référence, quoi, des matchs de 3 heures qui marqueront cette saison ou même l'histoire de ce Masters 1000. Donc c'est vrai qu'en ce sens, c'est pas forcément une très grande réussite, mais bon, ça a le mérite d'exister, écoute.
Et toi, Josh, est-ce que tu arrives à accrocher à ce tournoi?
Ouais, pareil, un peu déboussolé. Enfin, voilà, j'essaye hein, de me mettre dans le train parce que voilà, ça reste vraiment des tournois voilà, où on a vraiment les cadors. Enfin, on a vu le tableau à Pékin, c'était de la folie. Et voilà, tu fais jouer la finale de Pékin un mercredi. En même temps, tu as Shanghai qui commence. Enfin, les mecs, à un moment donné, déjà que tu vois, nous on peut être perdu à un certain moment. Alors tu vois, pour celui qui suit le tennis de manière plus ou moins régulière, il regarde Roland, il essaye de suivre les grands chelems. Là, il voit qu'il y a la tournée asiatique. Enfin, le mec, il va pas regarder ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc
C'est
assez
tribune aussi.
compliqué. Même si voilà, les joueurs sont là. Tu vois, à part Djokovic, mine de rien, mais les autres sont là. On a du Alcaraz, Medvedev, Sinner, enfin, tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Mais voilà, au niveau de l'organisation de la période, c'est vrai qu'on a joué les quatre grands chelems, donc il y a un sentiment d'un peu de fin avant la fin. Voilà, pour beaucoup, voilà, l'US Open marque le dernier grand rendez-vous de l'année. C'est vrai que cette tournée asiatique attire moins l'œil de manière générale, donc assez dur, mais bon, on est présent étant donné que ça reste un gros rendez-vous et que les meilleurs sont là. Mais
Ouais,
effectivement, très dur de s'y mettre.
c'est
C'est clair.
surtout, je te dis, problème de lisibilité, quoi. Honnêtement, Caroline Garcia, je ne sais même pas combien de tournois elle a joué sur cette tournée asiatique, puisqu'elle a joué des quarts de finale un mercredi, un premier tour, un
Ouais,
vendredi.
ça.
Là, t'as Zverev, on est un mercredi Grand Chelem qui est déjà à Tokyo en train de taper. Franchement, je ne sais même pas quand est-ce qu'il commence. Ça se trouve, bon, je n'ai même pas les dates en tête, mais ça se trouve, il va jouer après-demain pendant que Dimitrov ou Jarry joueront leur demi-finale à Shanghai. Enfin, franchement, c'est. Faut
C'est faut suivre,
faut
faut
suivre.
suivre. C'est clair que l'intérêt, je peux comprendre là qu'il y ait une hype qui soit moins intéressante, même si on a eu de belles surprises. Des Shelton, on aura l'occasion d'en reparler, et notamment une victoire surprenante, en tout cas de Grigor Dimitrov contre Carlos Alcaraz. Il jouera Nicolas Jarry en quart de finale pour une place en demi. Et je vous propose tout de suite de revenir sur le match de l'Espagnol où il s'incline en 3-7 contre le Bulgare, qui a très bien verrouillé les deux derniers sets. Hein, sachant que sur son service, il était presque injouable. Alcaraz s'est procuré aucune balle de break sur ses deux sets restants. Sur le premier, d'ailleurs, c'est le Bulgare qui fait la course en tête. Après, il se fait débreaker et il perd le set sur un fil. Greg, ton avis un petit peu sur l'Espagnol. Est-ce que là, ben, depuis Wimbledon, il y a une certaine forme de décompression? On sait qu'il va faire cette erreur, peut-être, en tout cas, de tout faire pour réussir à avoir cette première place mondiale à la fin de la saison. Donc là, 500 points de retard. Il va jouer à balle ensuite Bercy et le Masters. Est-ce qu'il va finir comme Nadal sur les rotules? Et est-ce que ben, tout ça, ce n'est pas les matchs de trop pour lui? Et contrairement à Novak Djokovic qui se préserve pour les grands événements et qui va arriver frais à Paris et frais à Turin, qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'Espagnol qui avait déjà déçu contre Yannick Sinner il y a quelques jours?
Bah après, ils n'ont pas le même âge, déjà, c'est ce qu'il faut rappeler. Donc, effectivement, Djokovic a tout intérêt à mieux se préserver que Carlitos. Après, je pense, et c'est assez paradoxal de dire ça, parce que Carlos Alcaraz a quand même deux grands chelems, a été numéro un mondial, etc. Mais il est encore dans une phase d'apprentissage. Et je pense que, il fera peut-être pas la même erreur que Rafa, et va peut-être apprendre de tout ça. Je pense que, on parlait d'intrigue tout à l'heure, il n'avait jamais joué cette tournée asiatique. Il avait peut-être envie aussi de découvrir ça. On sait qu'en Chine, pour les sponsors, c'est souvent aussi très intéressant. Je pense à un Roger Federer qui venait en Chine peut-être plus pour les sponsors que pour réellement gagner ce Masters 1000-là. Donc, il y a aussi une dimension peut-être extra sportive qui rentre en ligne de compte. Après, voilà, on sait Carlos Alcaraz, et je parlais de paradoxe tout à l'heure, techniquement, c'est un joueur qui est capable de tout faire sur un court de tennis, mais c'est un joueur quand même qui demande encore, un diamant qui demande encore à être poli, notamment en termes de constance. Là, on l'a vu contre Grigor Dimitrov, c'était un peu tout fouillis, j'ai envie de dire. Alors après, Grigor Dimitrov, comme tu l'as dit, a vraiment verrouillé. Bon, le premier set, il nous a fait une spéciale Dimitrov, même si sur le jeu où il débreak, Alcaraz n'a pas fait une faute. Mais voilà, en tout cas, Grigor Dimitrov, sur service première, il était vraiment impérial aujourd'hui. Et Alcaraz, on l'a vraiment senti. Déjà, moi, physiquement, j'ai senti effectivement peut-être un peu pato. Il avait du mal à se replacer dans la diagonale coup droit. Elle a été dominée. Et puis voilà, sur les points importants, il se sentait obligé, comme il était dominé dans la filière courte, de venir vraiment immédiatement à la volée, y compris pour sauver ses balles de break. Et il a eu pas mal de déchets. Il devenait presque prévisible, ce qui est quand même assez rare chez Carlos Alcaraz. Donc tout ça explique un peu sa défaite d'aujourd'hui. Après, plus globalement, je pense que oui, il y a une fatigue nerveuse, physique. Mais on est encore, comme je l'ai dit, dans ce processus d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle je suis pas forcément inquiet pour Carlos Alcaraz, même si effectivement l'étau se resserre et que ça va être dur d'aller chercher cette première place mondiale à la fin de l'année.
Et toi, Josh, de ce que tu as pu voir contre le Bulgare, qu'est-ce que tu penses là de Carlitos?
Je pense que voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sa saison est ultra réussie. Enfin, quand il gagne un grand chelem, Masters 1000, tout ça, enfin, il n'y a plus trop besoin de débattre maintenant. C'est vrai qu'il sort pas, voilà, il sort pas son meilleur match. Est-ce que c'est un bon match de sa part? Il déjoue pas, hein, on va pas aller jusque-là, même s'il a quand même quelques moments de moins bien. Il était mené quand même 5-3, donc si on fait le global, si on enlève cette fin de premier set, bah, c'est vraiment Dimitrov qui est bien au-dessus à chaque fois, avec un deuxième set où tu sens qu'il n'y arrive vraiment pas et qu'il laisse vraiment le Bulgare prendre les devants. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez lui. Aussi au niveau du comportement, enfin, il y a des fois où il s'est mis à crier, enfin, tu sentais qu'il était vraiment frustré. Mais voilà, il y a pas de quoi, il y a pas de quoi s'inquiéter. Ça reste, voilà, c'est sur Pékin, hyper sur Tinner qui gagne après, là, hyper sur Dimitrov qui est sur une super. Enfin, moi, Dimitrov, je trouve qu'il joue très bien depuis un bon moment à l'US Open, hyper sur Zverev. Enfin, Zverev, limite, je ne sais même pas comment il fait pour s'accrocher comme ça et gagner ce match parce que Dimitrov est en feu. Il varie énormément et c'est incroyable de le voir jouer à ce niveau-là. Donc voilà, Alcaraz, ça reste voilà, une défaite contre un excellent joueur qui a fait un très très bon match. Mais voilà, on sait de quoi est capable Alcaraz. Il a gagné Wimbledon, enfin, il a déjà deux grands chelems, il est si jeune. Il a un palmarès énorme et je pense qu'il va continuer à l'étoffer. Voilà, c'est une victoire, enfin, c'est une défaite qui lui permet d'en apprendre un peu plus sur lui, sur son jeu, sur son mental, sur sa manière d'aborder ses matchs et sa manière de gérer un match où il est pas forcément bien, pas forcément le meilleur sur le court. Donc voilà, une très très belle la victoire de Dimitrov, amplement mérité. Et pour Alcaraz, bah il n'y a rien de dramatique.
C'est
Et
clair,
surtout
mais je sens
dans le
que.
troisième set, hein.
Dimitrov, il était
Ouais.
dans la zone. Je l'ai rarement vu dans la zone comme ça
Ouais.
depuis quelques mois. Hein. Parce qu'en revers, on l'a vu, hein, généralement, ces dernières semaines, il aimait bien chipper. Et ensuite, quand l'adversaire montait lui mettre la pression sur le revers, il tirait souvent un passing. Mais là, en coup droit, c'était hallucinant. Franchement, dans le replacement, le mec était sur une autre planète. Et puis, tu l'as dit, Konce, il a aussi extrêmement bien servi. Dans le dernier jeu, il fait deux aces pour vraiment s'éviter tout caca culotte comme dans le premier. Donc, non, franchement,
Ah non, et
très
Dimitrov, il a
solide,
une
les gars.
excellente saison. Hein. Enfin,
Même
il arrive souvent
contre
loin.
Khachanov au tour d'avant, hein, franchement, c'était très solide.
C'est clair, et il fait une très bonne saison. Hein. C'est juste qu'après, il coince contre des joueurs qui sont meilleurs que lui, souvent Zverev, Alcaraz, etc. Mais en termes de régularité, cette saison, le Bulgare, il faut quand même compter sur lui.
Il a
Donc
monté, hein.
ça,
Il
c'est.
était au-delà de la 20e place mondiale encore au mois de mai, hein.
Et là, ouais, 19e,
Enfin, il était, ouais,
c'est.
mais il était entre 25 et 27, je crois, de mémoire. Mais...
Et Alcaraz, ouais, bah on reproche souvent à Rublev, enfin, t'en parlais tout à l'heure, ce manque de plan B, mais c'est vrai que là, avec ce Alcaraz fatigué, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué de trouver des solutions quand on arrive à lui proposer quelque chose en face. Ça a été le cas contre Sinner, contre Medvedev aussi à l'US Open, et là contre Dimitrov, où il n'arrive pas à avoir ce supplément et il a tendance à aller un petit peu trop rapidement à la faute.
Ouais, et puis sa deuxième est encore frileuse. Hein. Sur le premier set, il se fait. Même sur le premier et le troisième, en fait, il se fait breaker parce que derrière sa deuxième, il est pas serein et elle est peut-être encore un petit peu tendre. Alors après, je sais pas si c'est la surface qui joue aussi, le fait que la balle rebondisse pas mal, mais voilà, Grigor Dimitrov, en tout cas, a su aussi tirer profit de ça.
Et du coup, cette affiche, donc Nicolas Jarry contre Grigor Dimitrov, le Chilien mène 2 à 0. contre le Bulgare. Donc Dimitrov qui a sorti Vukic, Khachanov et Alcaraz. Et Jarry qui a fait notre français Atman, Sonego et Schwartzman. Très solide aussi le Chilien cette année. On sait voilà, qu'il frappe très fort des deux côtés, qui n'est pas forcément un joueur très athlétique, peut-être dans la mobilité où c'est un peu plus compliqué. Malgré ce 2-0, est-ce que vous voyez Grigor Dimitrov refaire sensation, notamment avec son slice, je pense, où il pourrait casser un petit peu les jambes de son adversaire et le pousser à la faute? Josh, quel est ton pronostic sur cette affiche?
Ouais, moi je vois Dimitrov venir s'imposer dans sa forme, voilà, la forme où il est actuellement. C'est vrai que Jarry pratique un bon tennis. Enfin, j'ai des bons souvenirs de ses matchs. Enfin, quelques bons matchs en tête cette saison de Jarry, notamment à Wimbledon contre Carlos Alcaraz, où il est vraiment pas évident à jouer. Enfin, voilà, joueur tout en puissance, mais je vois Dimitrov un peu au-dessus, où il va venir varier avec ses slices. Il va vraiment, Jarry, il va falloir qu'il soit bas sur les jambes, mais je pense qu'à long terme, enfin, sur cette surface qui peut l'avantager tout de même, hyper rapide, je pense que Dimitrov peut à toutes les armes, service, coup droit, slice, pour venir à bout de ce Jarry. Donc je vais vous voir un Dimitrov en 2-7 serré, possible tie-break, tie-break potentiel. Donc Dimitrov en 2-7 pour aller en demi de Shanghai. Même si voilà, Jarry est un excellent joueur et à toutes les, enfin, ce serait vraiment pas une surprise non plus de le voir en demi-finale. Mais voilà, Dimitrov dans la forme du moment, confiance. Donc je pense qu'il passera en 2-7.
Et toi, Greg?
Et ben moi, dans l'expérience qu'on a de Grigor Dimitrov, je vais partir sur Nicolas Jarry. parce que attention au syndrome du favori pour Grigor Dimitrov qui a, voilà, qui dans ses sphères, même s'il a l'expérience, qu'il a déjà gagné un Masters, qu'il a fait des demi de Grand Chelem, voilà, pour moi, mentalement, reste un joueur friable. Toute proportion gardée, mais pour un joueur de son niveau, je parle. Maintenant, voilà, le slice, c'est vrai que c'est bien, mais la trajectoire des coups droits de Jarry sur le revers de Dimitrov, pour moi, ça va quand même, voilà, lui proposer une balle un peu plus lourde que ce qu'il a connu jusqu'à présent, excepté Carlos Alcaraz, mais voilà, on l'a dit dans la diagonale coup droit aujourd'hui, Dimitrov était le plus fort. On sait que ça sert très bien. Moi, je trouve qu'il bouge plutôt pas trop mal, Nicolas Jarry. On l'a vu sur les dernières semaines, je pense notamment à son match contre Arnaldi, sauver des balles de break, des balles de match de manière très autoritaire. Donc voilà, je pense que c'est un joueur aussi qui, comment dire, joue d'une manière beaucoup plus libérée qu'auparavant. On sait qu'il a eu quelques petits déboires extra-sportifs. Et puis voilà, dans ces proportions-là, même si Grigor Dimitrov, voilà, pour moi, est un bon relanceur et ça va aussi se jouer là-dessus. Je vois quand même Nicolas Jarry en 3-7 serré prendre le dessus sur Grigor Dimitrov.
Ouais, je vais te rejoindre. Je pense, Greg, que je suis assez partagé parce que je pense que Dimitrov a vraiment le jeu sur cette surface, en tout cas pour battre Jarry. Mais c'est vrai qu'il y a le lendemain, être en mesure d'enchaîner après un exploit, quand même, le Bulgare qui n'avait jamais pris un set à Alcaraz, qui là s'impose. Donc je me dis que pourquoi pas, ouais, Nicolas Jarry. Surfer un petit peu sur cette dynamique-là avec une victoire en 3-7, mais vraiment pas de grosse certitude parce que c'est vraiment tellement ouvert cette affiche-là qu'il y a vraiment une grosse possibilité d'aller loin dans ce Masters 1000. Donc voilà, des pronos assez partagés. Josh qui est plutôt sur 2-7, mais plutôt avec Greg sur 3-7, donc avec des vainqueurs différents. Donc à voir ce que ça va donner. Pas évident. Et on va avoir l'autre affiche donc de ces quarts de finale qui est une sorte de revanche. Donc Humbert contre Rublev, de partout entre les deux joueurs. Vous en avez parlé en début. Hugo Humbert, très très solide. VDZ, Tsitsipas et Wolf après deux matchs. Enfin, premier tour décousu contre les Néerlandais. Deuxième tour solide contre Tsitsipas. Et troisième tour monstrueux contre Gigi Wolf. Enfin, il était vraiment dans la zone, le français. Et Rublev qui fait une semaine très appliquée, je trouve. Alice, Manarino, Paul, pas des joueurs évidents. Et pourtant, le russe n'est pas tombé dans le piège. Donc, le français a pris le meilleur il y a quelques jours sur André Rublev. Est-ce que vous voyez le russe prendre sa revanche, Josh?
Je vois malheureusement le russe prendre sa revanche. C'est vrai qu'Ola Humbert, comme je l'ai dit, propose un super tennis. De toute façon, quand les planètes sont alignées avec Humbert, quand il est sur dur, je trouve que c'est vraiment Enfin, je crois que c'est Medvedev qui disait ça. Il peut être top 10, enfin voilà, voire plus. Donc c'est vraiment, enfin il a des deux côtés un service exceptionnel et des deux côtés c'est très solide. Maintenant Rublev, bah, c'est un peu la même chose. Rublev, voilà, c'est vrai que même s'il y a ce manque de variation, ce manque de plan B, bah ça balance quand même du bois, que ce soit au service, en coup droit. Et même en revers, quand il est dedans, c'est vraiment bien. Donc, ouais, je vais dire je ne peux même pas dire à l'expérience, parce que Rublev n'a pas un palmarès tant garni que ça en Masters 1000. Mais voilà, Rublev a quand même beaucoup plus de matchs au haut niveau, on va dire, comparé à Humbert. Voilà, Shanghai, surface très rapide. Ça correspond aux deux, mais je vois Rublev un peu au-dessus. Je pense que ça va être très serré comme leur match à Pékin, mais je vois Rublev cette fois-ci un peu plus fort, même si Humbert va lui donner du fil à retordre. Donc match vraiment indécis, mais pour ma part ce sera Rublev pour on va dire cette régularité qu'il a par rapport à Humbert, même si voilà, sur ces dernières semaines, Humbert n'a rien à forcément envie à Rublev, mais voilà, plus pour ce côté consistant et régulier sur le long terme, je verrai un Rublev.
Et toi, Greg?
Moi, je vais partir sur Rublev aussi. Un premier set au moins très serré. Après, en fonction de la physionomie, le deuxième pourrait être plus ou moins serré, mais je vais partir sur Rublev en deux. Effectivement, je pense qu'il va aussi y avoir ce petit esprit de revanche qui va flotter. Il revenait de la Laver Cup, ça a été dit. Là, il est peut-être un peu plus frais. Il joue super bien cette semaine. Il s'est même excusé auprès de Manarino. Il lui a dit, excuse-moi, mec, franchement, aujourd'hui, j'étais injouable. Il lui a mis 3-0, je crois. Et même si Manarino voilà, était fatigué, un peu malade depuis le début de la semaine, il faut quand même lui mettre ce score-là. Voilà, encore aujourd'hui, il a été extrêmement performant face à Tommy Paul. Il est breaké d'entrée, enfin pas d'entrée, mais c'est le premier à être breaké dans cette première manche. Et puis après, il est très percutant, même en revers. Enfin, il a été capable d'envoyer du bois, alors qu'on sait que d'habitude, c'est peut-être davantage côté coup droit qu'il est capable de faire des grosses différences. Mais voilà, je l'ai trouvé solide, serein. Et effectivement, il a quand même plus d'expérience qu'Hugo. Notamment avec ses perfs à Monte Carlo, c'était pas la même surface, mais voilà, André Rublev, je pense, a quand même un bagage qui va lui permettre, notamment au vu de la surface, de disposer d'un Hugo qui aura quand même fait un très beau tournoi jusque-là.
Ouais, je vous rejoins. Je vois André Rublev aussi, l'expérience, le fait, comme certains l'ont rappelé, que bah, du coup, la dernière fois qu'ils se sont joués, il y avait cette histoire un peu du jet lag, des voyages aussi qu'il avait fait en très peu de jours, la Laver Cup, Pékin, etc. Donc il était forcément fatigué. Il avait eu un match accroché contre Cameron Norrie. Là, c'est plus du tout la même dynamique cette semaine. Donc je vois aussi Rublev en 2 ou 3 sets. Et pour certains qui nous demandent en termes de régularité, ben, quand même, il reste sur deux quarts en majeur. Certes, il n'arrive pas à péter ce plafond de verre, c'est un fait, mais en tout cas, il est là. Il est bien installé dans les 8 premiers joueurs du monde, enfin bien qualifié aussi enfin, pour les ATP Finals normalement où il y a de fortes chances de le voir. Donc c'est solide. Après, pour aller au-dessus, ben, c'est un peu plus compliqué, mais au moins il déçoit rarement dans les grands rendez-vous. Et là, il a vraiment une grosse occasion pour en profiter. Après, comme tu l'as dit, Monte Carlo, il avait fait son premier titre en Masters 1000.
Ouais, et puis
Holger
je le
Rune.
vois même en service retour, je le vois plus fort qu'Hugo depuis le début de la semaine.
C'est clair, comme tu l'as dit, Vincent, ouais, il tombe quasiment à chaque fois contre Djokovic. Où là, ben, voilà, c'est compliqué. Il a fait un bon
Bon,
match à
Rafa
Wimbledon. C'est clair.
ou Daniel,
Dylan,
ouais.
pour te répondre sur Holger, ben, on a évoqué le sujet en début d'émission où c'était très compliqué physiquement. Là, ben, il faut vraiment qu'il se soigne. Je pense que ça devient assez gênant sa saison. Là, il va tout faire pour finir l'année, mais à mon avis, il faudrait mieux qu'il revienne l'an prochain. Il a commencé un traitement pour le dos, mais voilà, là, c'est pas évident. Il va perdre 1000 points, à mon avis, au Rolex Paris Masters. Pas sûr de le voir à Turin. Et surtout, si on le voit là-bas, bon, je sais pas quel niveau il affichera, donc très, très compliqué. Et pour table tennis, par rapport aux commentaires de table tennis, ouais, c'est lié à notre Discord. Je vous invite à le rejoindre, le Discord de Game Stand Talk, où on a des échanges quotidiens et notamment des petites private jokes, dont le commentaire de table tennis. Une autre affiche, Marochan contre Yurkach. Là aussi, demi-surprise. En tout cas, Marochan qui refait parler de lui. Il sort quand même Rinderknecht, Demi-Nord, Lajovic, Ruud. Il a fait 8e à Rome. Car ici, une seule défaite en Masters 1000, donc c'était contre Čurić en 3-7. J'aime beaucoup le profil du joueur. C'est vrai qu'avant, je ne l'avais pas du tout dans mon radar. l'Hongrois, mais je trouve qu'il propose un jeu très complet, une bonne puissance du fond, solide des deux côtés, il sert pas mal, il a un bon toucher de balle. Voilà, il a ce profil, peut-être ce nouveau metagame un peu à la Holger Rune, à la Carlos Alcaraz, de joueur très très complet. Ça fait plaisir à voir jouer, en tout cas quand c'est dans la zone. Il a 24 ans, si je ne dis pas de bêtises, donc il est arrivé un peu tard, mais il fait plaisir à voir évoluer. Très beau match contre Casper Ruud, où le Norvégien, ben, ça s'est joué à pas grand-chose, où Marochan aurait pu s'en vouloir, sachant qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'opportunités de breaker. Il a été très peu réaliste. Et Hurkacz, qui refait parler de lui, c'est en grand chelem qui déçoit, mais là, sur une surface comme ça, il pouvait en profiter. Kokkinakis, Su et Cheng, dans un match accroché qui s'est terminé au tie-break. Comment est-ce que vous voyez la physionomie de ce match? Et Greg, toi qui nous avais fait une vidéo un peu sur les futurs rivaux de Carlos Alcaraz, comment tu positionnes un peu Marochan? Comment est-ce que tu le sens?
Écoute, je pense pas que ce sera forcément un futur candidat pour des victoires en Grand Chelem. Maintenant, effectivement, c'est une catégorie de joueurs qu'on peut considérer comme étant des coups de peur de tête. Tu l'as dit, joueur très complet, très bon toucher de balle. Il a pratiqué énormément d'amortis contre Casper Ruud. Même mentalement, je l'ai trouvé assez solide finalement. Hein. C'était un match vraiment
Grave.
assez débridé, comme le Paul Arthur Fils, par exemple, ce genre de rencontre. Il est donc à deux victoires face au top 10 en deux matchs. Je crois pas qu'il en ait joué d'autres que Casper Ruud et Carlos Alcaraz. Donc non, en tout cas, mentalement, c'est assez solide. À voir aussi quand il faudra confirmer, peut-être, parce que là, c'est encore voilà, il est 92e joueur mondial ou 91e. On l'attend pas encore sur chaque tournoi. Donc, quand il changera potentiellement de statut, comment il va le gérer, c'est à voir. C'est aussi une inconnue qui fait que pour l'instant, on ne peut pas trop le positionner, de savoir s'il sera top 30, top 20, top 10. Mais non, en tout cas, assez rafraîchissant comme joueur, je suis d'accord avec toi. Très agréable à regarder jouer. Maintenant, contre Hubert Hurkacz, je pense que la marche sera peut-être un petit peu haute, même si on sait que Hubert Hurkacz, mentalement, parfois, est capable de choke. C'est là aussi un joueur qui a une certaine expérience en Masters 1000, d'autant plus sur surface rapide. Il est sorti d'un match au couteau face à Zhang au tour précédent. Voilà, il y a la qualité de service aussi et la profondeur, je trouve. En plus de la présence au filet qui vont lui donner vraiment des atouts pour gagner cette rencontre. Je pense aussi qu'il va devoir vraiment casser la diagonale revers, parce que s'il s'engage dans cette diagonale revers, il va potentiellement avoir pas mal de difficultés. Dès qu'il va raccourcir Marochan, va pouvoir tourner autour de son coup droit, et là, ça peut commencer à devenir compliqué pour le cousin Ubi. Mais non, en tout cas, je vois quand même une victoire d'Hubert Hurkacz, pareil, assez serrée, mais pour tous les arguments donnés auparavant.
Et toi, Josh?
Ouais, je m'aligne. Duel intéressant, effectivement. Hurkacz, voilà, qui a réalisé une saison nord-américaine excellente, mais qui, voilà, qui a chuté à l'US Open prématurément contre Draper en trois petits sets. Je pense qu'il l'a encore en travers de la gorge, celle-là.
C'est clair.
Et donc, surface un peu similaire entre Shanghai et la tournée, même si voilà, la Shanghai, ça fuse vraiment, ce qui l'avantage avec son service incroyable. Marochan, effectivement, très bon profil, ce serait vraiment cool qu'il progresse encore au classement pour qu'on le voie plus souvent et pour qu'il vienne un peu débroussailler, on va dire, ce top 50, ce top 30 et qu'on le voit régulièrement. Il a fait un super match effectivement contre Casper Ruud. Il a une super main. Il a une super main. Enfin, je pense que Sinner achèterait sa main tous les jours. Enfin, vraiment, il a quelque chose vraiment très intéressant. Côté revers, c'est très solide. Mais néanmoins, voilà, je vois un Hurkacz un peu au-dessus. Je pense que Hurkacz, voilà, ce genre de match, il passe rarement à côté. Et voilà, avec son service, enfin, voilà, va vraiment, Marochan va vraiment galérer, je pense, pour breaker Hurkacz. Et peut-être que voilà, il va tellement devoir être concentré que il va peut-être breaker plus facilement. Et donc, voilà, je vois un Hurkacz passer. Ouais, je ne sais même pas si ce sera très très serré. Non, je vais mettre 2-7 assez classique. 6-3, 6-3, sans trop de difficultés.
Ce qui est assez dingue,
Ah
c'est que
ben.
Marojan, ouais, il sait amortir des deux côtés, hein, notamment côté coup droit, comme Carlos
Incroyable.
Alcaraz. C'est pas forcément hyper commun, mais en tout cas, on devrait voir des tie-breaks, parce que Marojan a gagné ses deux derniers et Hurkacz ses quatre derniers. Donc ça risque d'être. Il y aura une
C'est
fin de
ça.
série
Et
si jamais il y a un tie-break.
il sert pas mal, Marochan. Je vais aller un peu à contre vos avis. Je vais plutôt aller sur le Hongrois. C'est très très compliqué, encore une fois, tout peut se passer dans ce match, mais je me dis que s'il est en mesure de relancer le service de Hurkacz, Marochan qui arrive qui a pas mal réussi à sécuriser en tout cas ses engagements, qui va devoir axer le jeu sur le coup droit du Polonais. On sait que c'est sa faiblesse. Il est un petit peu passif dans ce compartiment de jeu-là. Et pourquoi pas, comme il a fait contre Casper Ruud, le slice dans la diagonale revers, aussi donner des balles un peu basses, compliquées à réaccélérer pour le Polonais. L'amorti aussi, parce qu'avec ses grandes jambes, ben c'est compliqué pour Ruby de se déplacer. Donc pourquoi pas exploiter ça, même si ça va être très compliqué, surtout que là, ben, Jurkač sera le grandissime favori sur ce match, à voir comment il va gérer cette pression. On a vu contre Cheng, c'était compliqué, le Chinois qui joue à domicile, avec beaucoup d'attentes de son pays. Et il y a eu des moments où ça faisait break des breaks. C'était un peu décousu. Hein. Ouais, c'est clair. Ça fait plaisir. Ouais, c'est une sacrée révélation.
Madrid,
ouais,
en plus, sur terre battue. Ouais,
c'est clair. Donc, l'art, c'est la même. C'est nos épisodes qui sont mis en audio, en fait, pour ceux qui veulent l'écouter dans la voiture, dans les transports, où c'est plus simple. Donc, c'est la même chose que tu retrouves sur notre chaîne YouTube. Donc, un peu partagé, pas évident. Et dernière affiche, duel 100% Rica entre Sebi Korda, qui va faire plaisir à Alex, et Ben Shelton, qui confirme ses bonnes sensations de l'US Open. Il aligne Mounard, Safiulin et Sinner. C'est seulement la troisième fois de l'année, du coup, qui fait au moins deux matchs, deux victoires consécutives après l'Open d'Australie et l'US Open. Face à un Italien voilà, qui a été un peu fatigué contre Yannick Sinner, il n'y a pas eu l'entame idéale pour Ben Shelton, mais après, derrière, il s'est bien remis dedans. Et Sinner commençait à accuser le coup. On savait qu'il avait du mal à enchaîner après son gros coup à Pékin en ayant battu notamment Alcaraz et Medvedev coup sur coup. Et Korda, qui s'offre Bou, Medvedev et Cerundolo. Donc, Korda avait beaucoup d'attentes en début de saison. Il s'est blessé à l'Open d'Australie. Derrière, ça a été très compliqué. Il a refait 2-3 coups par-ci par-là avec une finale au Queens, une demi à Winston-Salem et une finale à Astana. Donc, il a réussi à enchaîner, contrairement à Adrian Manarino qui a marqué un petit peu le coup cette semaine. Quart de finale à Miami en 2021. Donc, la deuxième quart en Masters 1000. C'est Sebi Korda qu'on a envie de voir à ce plus haut niveau et Ben Shelton qui électrise un petit peu les foules par rapport à son style de jeu. Josh, comment est-ce que tu vois cette affiche?
Ouais, affiche voilà, également très intéressante. Peut-être le quart de finale dont j'ai le plus hâte. Deux joueurs jeunes très intéressants qui ont un gros potentiel. Avec voilà, un Shelton voilà, qui est bankable, qui c'est l'année où il explose 2023. Voilà, il commence à se faire connaître aux yeux du monde entier. Et on a encore Korda qui renaît un petit peu ces derniers temps parce que ça a été un peu compliqué avec les blessures. Il fait un très bon début d'année à Adélaïde et à l'Open d'Australie où il bat Medvedev. Mais après, voilà, ça a été un peu plus dur. Et là, voilà, il fait finale à Astana et un très bon Shanghai pour le moment. Il ne perd pas un set. Voilà, technique très propre, très bon service. C'est propre et très fort des deux côtés. Face à un Shelton et qui sert extrêmement bien, mais qui a un peu cette fougue en plus que n'a pas Korda. Alors fougue, ça peut être bénéfique, mais ça peut être aussi un peu piégeux parfois. Il peut un peu arroser. Néanmoins, Shelton m'a vraiment impressionné ces derniers temps, pas que à l'US Open, plus de manière générale. Et même si voilà, il a un peu cet aspect fantasque, je le vois prendre le dessus dans un match en 3-7 face à Korda. Je pense que Korda voilà, va pas faire un mauvais match, mais c'est juste que Shelton sera... Voilà, je pense qu'il va mettre le coup de plus. C'est lui qui sera se montrer le plus agressif. Je pense que la propreté, le côté un peu trop carré de... très, très, on va dire, studieux de Korda sera devancé par la puissance phénoménale de Shelton. Donc voilà, je vois un match serré tout de même en 3-7, mais avec le dernier mot pour Ben Shelton.
Toi, Greg, est-ce que tu vas à l'encontre de Josh ou tu es d'accord avec son analyse?
Eh bien, on est assez lié parce que je vais aller sur Shelton en 3 aussi. Voilà, moi, je trouve qu'il fait quand même sensation, évidemment, cette saison dans son ensemble, surtout au Grand Chelem, mais notamment depuis US Open, où il a montré aussi que jouer des compatriotes, ça ne l'effrayait absolument pas. Il a fait un peu une razzia à Flushing Meadows. Surtout que voilà, Korda sort d'une défaite face à un gaucher, Adrien Mannarino. Alors on sait que ce n'est pas forcément le même style de jeu, Adrien Mannarino et Ben Shelton, pas du tout même. Mais non, en tout cas, il montre vraiment des choses assez intéressantes dans ce tie-break où il mène 4-0 contre Sinner. Sinner revient à 4 partout, même s'il bascule peut-être pas à 5-4. Au final, il gagne quand même. Il a fait preuve de beaucoup de caractère. Il a l'air de jouer vraiment libéré. Bon, ça, on le savait déjà. Mais effectivement, il y a ce côté peut-être un peu trop lisse parfois de Sebi Korda qui aime bien aussi user du slice dans la diagonale. Sauf que là, comme c'est un gaucher, ça va venir sur le coup droit de Ben Shelton et pas sur son revers. Et je pense qu'il aura peut-être un peu plus de mal à casser cette diagonale-là. Donc, pour ces raisons-là, je vois quand même Ben Shelton remporter cette partie. Puis on a vu que voilà, il avait aussi il était capable de digérer des grosses victoires. Là, il bat Yannick Sinner, ça va lui donner pas mal de confiance. Il y a toujours cette qualité de service qui est au rendez-vous. Donc non, voilà, en tout cas, une très belle affiche popcorn, comme Josh, je pense que c'est peut-être le quart de finale qui me hype
Qui
le
m'intéresse
plus.
le plus, ouais.
Ce sera demain matin, donc en tout cas, hâte de voir ça.
Et ouais, Vincent, je ne suis pas d'accord avec toi parce que Korda, vraiment, son service est un de ses points faibles, je trouve, par rapport au style de jeu, sa taille en termes de joueur ricain. Il peut vraiment
Oui,
bosser
ouais.
au service pour avoir beaucoup plus de points gratuits, je trouve.
Et puis là, je pense aussi qu'il va quand même avoir moins le contrôle et la maîtrise du jeu. Il va peut-être pouvoir mettre un peu moins de profondeur dans ses frappes. Et ça, je pense que Shelton va aussi se régaler. Et il va pouvoir user du chip and charge. Et ça risque d'être par séquence compliqué pour Séby. Ouais. Mais bon, le
C'est
rapport de
clair.
force est assez équilibré, je trouve.
C'est clair, ouais. J'avoue que je ne sais pas du tout vers qui me tourner. J'aurais été encore une fois plutôt à l'encontre sur Sebi Korda, mais c'est vrai que c'est assez décousu. On l'a vu contre Cerundolo, où il y a un moment où il domine, il se fait rattraper, et il n'est pas loin de se faire embarquer dans un troisième set. Contre Medvedev, il arrive plutôt bien à canaliser le russe, notamment en se
Il a su
montrant
en mettre
ultra
plus hein,
agressif à la
contre
revanche.
Cerundolo quand c'était dur. Et ça, c'est positif aussi.
C'est clair, et c'est vrai que la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain, et Shelton a plus de références récentes. Ouais, je me dis que s'il arrive à installer, voilà, le combat, bon, forcément, il est gaucher, Shelton, mais sa force, c'est la diagonale revers. Hein. On l'a vu encore contre Medvedev, où ce qu'il arrivait à faire, c'était assez impressionnant. J'irai peut-être sur Sebi Korda, mais je pense que ce sera un match accroché. Il y aura
Ouais,
sans doute
mais
un ou plusieurs tie-breaks.
justement, tu vois,
Ouais.
moi, c'est vraiment la séquence où il slice sur le coup droit. Shelton, sans forcément faire un coup gagnant, mais je pense qu'il peut réussir à casser la diagonale et à jouer en ligne. Derrière, ça va être dur pour Korda de rejouer en ligne. Et derrière, sur le revers de Shelton, pour moi, ça va être compliqué, quoi. S'il est capable de le jouer en ligne, même de le décroiser en voyant pétard, je sais pas
Si,
combien de kilomètres
ouais,
faire.
il est. C'est ça, donc je suis partagé et ouais, bah Rudy, t'es plutôt sur Korda et qui a une très bonne première. Bah, je trouve que au niveau du service, c'est pas. Il a une bon service qui on se rappelle Adélaïde, il a fait très mal à Novak Djokovic avec. Mais je pense qu'il peut vraiment progresser encore par rapport à sa taille, toujours par rapport à son gabarit. Là encore, ça manque un petit peu. Et c'est un de ses axes de progression. Et on espère le revoir à son meilleur niveau ben, dès 2024, hein, sachant que là, c'est encore un peu une phase de rodage pour lui. Donc, s'il peut capitaliser sur cette fin de saison, c'est top. Donc, il va voir s'il joue son tennis, il bat Shelton. À voir. En tout cas, on est vraiment très partagé ce soir. Donc, du coup, si on fait un petit peu la fin de ce
Ah,
tournoi
voilà.
de des choses intéressantes. Donc, si j'ai bonne mémoire, donc Josh voit Dimitrov, Greg et moi, on voit Jarry, on voit tous Rublev, donc voilà, donc il y aurait un Dimitrov Rublev et Jarry Rublev. Vous voyez tous les deux Yurkatch, Shelton, je vois Marochan Korda. Donc Greg, quelle est
Marochan
ta fin
Korda
de
serait
tournoi?
sympa aussi, j'aimerais bien cette demi.
C'est clair. Greg, quelle est ta fin de tournoi et ton, enfin du coup là tes demi et ta finale et ton vainqueur?
Ma finale sera un Rublev Shelton. Et mon vainqueur sera André Rublev.
La vache.
Et toi, Josh?
Ouais, intéressant. Sur ces 8 quarts de finalistes, finalement, on n'a que deux vainqueurs de Masters 1000, qui sont Dimitrov et Rublev, qui ont gagné qu'une fois d'ailleurs en Masters 1000. Donc, ça va être très
T'as
intéressant. Urkatch?
l'ami Hubert, t'as l'ami Hubert
Ah,
aussi.
ouais, Urkatch a
Hubert.
gagné
Ah,
Miami, non?
on l'oublie, pardon, Hubert. Pardon, Miami, incroyable.
Ce qui est dingue quand même.
Donc, moi, mes demi seront Dimitrov, Rublev. Et en bas, ce sera Urkatch contre Shelton. Dimitrov va gagner contre Andrei Rublev en demi. Voilà, la variation au slice. Et de l'autre côté, c'est Shelton qui va s'imposer contre Hurkacz. Shelton.
Ah bah tu l'as aussi.
Voilà, et en finale, on aura Dimitrov contre Shelton. Et un deuxième titre en Masters 1000 pour le fantastique, non pas Shelton, mais Dimitrov.
Qui en rêve la nuit. Hein. Il a pu gagner un titre depuis le Masters en 2017. C'est quand même une dinguerie. Hein.
La folie.
C'est ouf. Et moi, du coup, ça sera donc Jari Rublev et Korda Maruchan pour une finale Rublev-Korda. Et Korda qui décroche son premier titre en Masters 1000.
Ce serait beau.
Ceci dit, je joue avec lui dimanche dernier. Hein, il est chaud. Hein.
Là, ce soir, il s'entraîne. Hein. Il tape la balle. C'est ça qu'il n'est pas avec nous.
Il joue toutes les semaines, il m'a dit.
Maintenant qu'il a un club, c'est beaucoup plus simple. Pour gagner le tournoi, je vous le dis. Avant, en tout cas, on verra. Mais je pense, bon, il y a quand même une chance qu'un de nous trois ait le bon pronostic entre Rublev, Dimitrov ou Korda. Bon, à moins que ce soit Shelton qui raccroche définitivement le téléphone là en finale de Masters 1000, ça pourrait être assez popcorn. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait à vous dire sur le Masters 1000 de Shanghai. On aura l'occasion de faire une preview donc de Josh pour la finale qui aura lieu dimanche. Donc la preview sortira samedi soir. Et Alex fera le débrief de la finale dimanche en espérant une victoire de Dimitrov ou Sébi Korda.
Rien que pour ça, j'espère me tromper sur mes pronos. Rien que pour ça, j'espère me tromper sur les pronos.
Donc ça peut être très collector si Dimitrov ou Korda s'impose, sachant que Alex, on sait qu'il a ses deux chouchous. Donc ça peut être très intéressant, surtout qu'on peut avoir une finale entre les deux. Donc ça pourrait être vraiment, vraiment cool pour Alex. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis.
J'ai une dernière question pour vous, petite dernière rapide. Pour vous et pour le chat, est-ce que vous avez regardé, je sais pas, un match complet de la Lever Cup cette année?
Ouais, j'avoue que ça, c'est une vraie question.
Moi, non. Enfin, moi, j'ai toujours été contre la Lever Cup. J'ai toujours été contre la Lever Cup, hormis, je ne l'ai vraiment regardé que l'an dernier, enfin, là où il y a eu, à l'époque où il y a eu les doubles Fédal et l'an dernier. Mais pour moi, enfin, vu que je le catégorise en tant qu'exhibition, pour moi, ça n'a pas spécialement d'intérêt.
Moi, j'avoue que j'étais assez friand de ça quand même. En vrai, je regardais quand même pas mal les éditions précédentes. Mais là, déjà, bon, le plateau était pas dingue. C'était à Vancouver. Donc, voilà, le score, enfin, c'était même pas serré, quoi. C'est-à-dire que tu peux même pas te retrouver autour d'un truc, vraiment d'un match où parfois ça s'est joué dans les 2-3 dernières parties. Là, c'était plié quasiment avant le dernier jour. Donc, non, il y avait un peu tous les éléments pour que ça floppe et qu'on regarde pas plus que ça, quoi.
Ah ouais, ça a été une correction. Et question intéressante au Masters entre Ruud, Fritz, Demi-Nord et Paul.
Ah ouais, intéressant parce qu'il y a match, je crois, dans les points.
Si Shelton venait à gagner le Masters, enfin, il pourrait remonter aussi.
Ça, en vrai, Shelton, attention à la bombe, hein, parce que en indoor, après, ça peut être une petite dinguerie. Mais
moi, je vais aller sur Casper.
Ouais, moi aussi, je vais aller sur Casper.
Je vais aller sur la régularité, même si voilà, ouais, par rapport à sa saison, je ne sais pas si c'est mérité ou pas. Bon, il y a une finale à Roland. Mais en termes de régularité.
Il y a combien de places sur les 5 là?
Il n'y en a qu'une. En fait, généralement, les autres sont quasi bookés. Ouais, les autres sont quasi bookés. Enfin, quasi, hein, hormis gros coup. Mais ça joue, c'est surtout pour la 8e.
Mais j'aimerais bien Dominor quand même, qui fait une bonne saison.
Mais je vois les points là. Zverev, c'est pas possible.
Zverev, il y est déjà, il est 7.
Ah ok, pardon.
Enfin, normalement, après, bon, tout peut se passer, voilà, s'il y a quelqu'un qui fait un run de malade, mais okay. Logiquement,
en tout cas, je vois ni Runeux ni Fritz. Hein. Ouais. Ni Paul, en vrai. Enfin, ouais, je vois des mineurs ou Runeux, quoi. Ou Ruud.
Ouais, Ruud en vrai, Ruud.
Ouais, je pense aussi.
Ouais.
Il a une finale à défendre, c'est ça.
Ouais.
Ça serait collector, ça, table tennis.
Ah, attends, Shelton, s'il prend les deux Masters 1000, il va au Masters. Hein.
Ouais, ça serait assez ouf.
Ah, ce serait fou. Ouais.
Ce serait dingue, franchement.
Pour électriser tout ça. On en est loin quand même.
Ouais, on en est loin.
Mais voilà, on va aller plutôt sur l'ami Casper. Donc voilà les amis. Il est où Djoko en ce moment? Il s'entraîne, il a repris l'entraînement. Enfin, récemment, il va venir au Rolex Paris Masters frais. Enfin, voilà.
La maîtrise parfaite.
Une maîtrise parfaite de son calendrier, encore une fois.
Ça peut s'incliner.
Ah oui.
Il a quand même lancé la petite pique en mode j'aurais des choses négatives à dire, mais
Ah,
je ne
c'est
les dirai pas à
exceptionnel.
part bien séance. Franchement, c'est.
Donc ça, c'est exceptionnel.
Enfin, qui a dit qu'il a pris les propos de Rafa avec recul? Moi, j'aimerais bien savoir comment il les a pris quand il les a lus en mangeant ses barres
Ah, c'est
protéinées
clair.
avec son équipe. Mais...
Bon, cela dit, voilà, les propos de Rafa étaient, il y avait beaucoup de maladresse.
Oui,
Enfin, voilà, il y avait
bon, c'est
certains,
comme ça.
voilà, on peut pas. Il faut reconnaître que ces propos étaient pas forcément très très propres sur certains côtés. Bon après, voilà, rivalité, t'as le seum. C'est un autre débat.
Super facile de cons d'ailleurs sur ce débat.
Ah ouais, ça a fait jaser aussi dans les commentaires. Je vous invite à aller la voir. Et nous,
Surtout
on se
s'il
retrouve
parle
très
de
très
Rafa
vite.
ou Djokovic, globalement, ça fait souvent
Ouais,
parler, on
c'est
va pas se
clair, c'est
mentir.
clair, c'est clair. C'est clair. Vous connaissez hein, les débats du GOAT, tout ça. Vous avez l'habitude. Donc nous, on se retrouve samedi pour la preview de la finale avec Josh. Ben, d'ici là, passez une bonne fin de tournoi de Shanghai. On espère voir des beaux matchs, que certains joueurs vont un petit peu allumer tout ça. Et nous, on se retrouve ben, très très vite pour parler tennis. Ciao, ciao tout le monde.
Salut.
Ciao.